Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. L'agence de notation Fitch confirme la note A+ de la République tchèque. Le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg soutient le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Et puis du football avec Dagmar Damkova qui devient la première femme à siéger à la commission d'arbitrage de l'UEFA. L'agence Fitch a confirmé lundi la note A+ et la perspective positive associée à la dette souveraine de la République tchèque. L'agence de notation cite en particulier les finances publiques en amélioration et les progrès substantiels effectués sur la réforme des retraites. L'agence de notation met toutefois en garde contre le risque que les tensions politiques au sein du gouvernement de la coalition ne fassent dérailler le processus de réduction du déficit budgétaire et les progrès futurs des réformes structurelles. Fin de citation. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a déclaré que le processus pour l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne serait, je cite, « long, difficile, mais certain ». Lors de sa visite à Prague ce lundi, son homologue serbe a indiqué espérer que son pays présenterait bientôt sa candidature officielle à l'Union, après l'arrestation de Goran Hadjic, dernier criminel de guerre recherché par le Tribunal pénal international. Le chef de la diplomatie serbe Vuk Jeremic a précisé que Belgrade espérait que d'ici à la fin de l'année, la Serbie obtiendrait le statut de candidat. Les États membres devraient ensuite adopter le bilan en décembre. La République tchèque cessera de niveler les retraites des personnes ayant travaillé en Slovaquie avant la partition de la Tchécoslovaquie en 1993 et qui touchent donc des retraites inférieures à la moyenne en République tchèque. C'est la décision du ministère tchèque du Travail et des Affaires sociales. Le ministère réagit ainsi à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle si la Tchéquie avait nivelé les retraites des Tchèques et des Slovaques ayant travaillé en Slovaquie, elle devrait aussi niveler celle de tous les ressortissants de l'Union européenne, car ils pourraient se considérer comme discriminés. On passe au sport, et je vous le disais en titre, l'arbitre tchèque Dagmar Damkova a été nommée à la commission des arbitres de l'UEFA. À 36 ans, elle est la première femme à en devenir membre. Elle est une arbitre internationale depuis 1999 et a officié en tout dans 79 matchs de l'UEFA au cours de sa carrière. Outre plusieurs matchs de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Dagmar Damkova a dirigé 3 matchs de la Champions League féminine, dont la finale cette saison. Elle est également la première femme à avoir arbitré un match de la Gambrinusliga, c'est-à-dire la première division tchèque. Et puis toujours du foot avec Jaroslav Plašil, longtemps considéré comme partant des Girondins de Bordeaux en France. L'international tchèque à 29 ans a finalement prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2015 et ce malgré l'absence de perspective de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Le tchèque a récupéré pour la première fois de sa carrière le brassard de capitaine. Dans une interview accordée aux Parisiens, l'ancien monégasque évoque la fierté que lui procure ce nouveau statut. C'est un honneur et j'espère que ça va marcher. Cela récompense mes efforts car partout où je passe, je donne le maximum. C'est ma nature, a indiqué Plašil. Et puis on termine avec un mot comme d'habitude sur la météo. Et mardi, le ciel devrait rester partiellement couvert. Il devrait même pleuvoir par endroits. Les températures ne dépasseront pas 23 degrés pour les maximales. La suite du programme en français de Radio Prague, c'est dans une poignée de secondes avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. La presse tchèque s'interroge sur les conséquences des attentats d'Oslo. Bilan de la participation tchèque au Tour de France. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission qui se poursuivra par notre magazine sportif. Merci de rester avec nous et bonne écoute des émissions de Radio Prague. Les attentats d'Oslo qui ont coûté la vie vendredi à 93 personnes ont déclenché une vague d'émotion et de solidarité en République tchèque. La presse tchèque s'interroge sur les causes et les conséquences de cette agression et cite aussi certains passages du manifeste de l'auteur des attentats où il est question de Prague et de Tchéquie. Les événements tragiques d'Oslo ont changé l'image que nous nous faisons en général du terrorisme et des terroristes. C'est ce que constate la majorité des journaux tchèques. Selon le journal Hospodářské noviny, l'Europe a perdu l'illusion de faire face uniquement à un ennemi extérieur, c'est-à-dire à l'islamisme qui chercherait à liquider sa civilisation. Et le commentateur du journal de souligner que la brutalité inouïe de cette agression a fait ressurgir la vieille vérité que l'extrémisme est toujours dangereux sans égard à ses aspects religieux, ethniques ou nationaux. Le journal Mladá Fronta Dnes remarque dans ce contexte que la tuerie d'Oslo est l'œuvre d'un jeune homme cultivé qui se réfère sur son site internet à Winston Churchill, au philosophe moraliste anglais et au christianisme. Quant au quotidien Lidové Noviny, il s'étonne de la facilité et de l'efficacité avec lesquelles le tueur a pu réaliser ses intentions sinistres. Le journal compare Anders Behring Breivik à un autre terroriste solitaire, l'américain Timothy McVeigh, auteur de l'attentat à la bombe contre un édifice d'Oklahoma City qui a fait en avril 1995 168 morts. Les journaux commentent également le document qui circule actuellement sur Internet et qui peut être considéré comme un manifeste par lequel Anders Behring Breivik résume ses idées et explique ses décisions. Selon le politologue Miroslav Mareš, spécialiste des problèmes de l'extrémisme, dans ce document il est également question de République tchèque.
Si la version du document que j'ai lu peut être considérée comme authentique, son auteur se réfère à certaines sources idéologiques tchèques. Il présente par exemple les décrets du président Beneš et le transfert des Allemands des Sudètes comme un exemple de la déportation possible des musulmans et des immigrants d'Europe. Dans certains passages, il se réfère aussi aux paroles du président Václav Klaus qui met en parallèle la politique de l'Union européenne et les pressions soviétisantes.
Et Miroslav Mareš d'ajouter que le document comprend également une liste d'organisations anti-immigrationnistes et d'extrême droite qui pourraient être ses alliés potentiels, dont l'organisation néo-nazie tchèque Résistance nationale, Národní odpor, et le parti national, Národní strana, qui n'existe pratiquement plus. Miroslav Mareš.
Il décrit également sa visite à Prague qu'il considérait comme une ville où il pourrait facilement se procurer des armes. Il voulait acheter la mitraillette AK-47, mais il n'a pas réussi et est reparti bredouille.
D'après la même source, Anders Behring Breivik décrit dans son manifeste aussi son expérience négative avec les Roms chrétiens tchèques, qui constituent à son avis la majorité des criminels de Prague. Il donne aussi son opinion sur la problématique des Roms et propose la déportation de cette ethnie en Anatolie, ce qui pourrait à son avis éviter le génocide des Roms. À l'instar de 166 autres coureurs cyclistes, Romain Kreuziger a franchi la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées de la 21e et dernière étape du Tour de France 2011, mais le seul tchèque du peloton pouvait légitimement être très déçu de sa performance, puisqu'à l'issue des 3430 km de l'épreuve, il a seulement terminé à la 112e place au classement général. Ils étaient pourtant nombreux à penser que Romain Kreuziger, qui avait fini 9e lors des deux éditions précédentes, pourrait jouer un rôle de trouble fête dans cette édition, fort de sa belle performance au Giro, où il avait décroché la 6e place en mai dernier. Bien au contraire, fatigué avant même le début du tour, Romain Kreuziger a été victime de 3 chutes lors de la première semaine qui ont eu raison de son moral. Quasi invisible durant les 3 semaines de la preuve, il devra sérieusement se questionner sur la raison de cet échec. Pierre Maignan.
Romain Kreuziger n'a pas fait le poids dans un Tour de France dominé par le suspense. À 3 jours de l'arrivée, 6 coureurs pouvaient encore prétendre au titre de vainqueur. C'est finalement Cadel Evans, grâce à une épreuve de contre-la-montre maîtrisée sur le bout des doigts, qui endosse définitivement le maillot jaune à une journée du terme de la compétition. Le coureur de la formation BMC devient ainsi le premier coureur australien depuis 34 ans à inscrire son nom au prestigieux palmarès de la Grande Boucle. Il devance les frères Schleck, Andy et Franz. Les deux luxembourgeois auront souvent été les principaux animateurs de la course. Le français Thomas Voeckler, qui aura porté 9 jours durant le maillot jaune, échoue finalement au pied du podium. Dans les profondeurs du classement apparaît finalement Romain Kreuziger, 112e à 3h59 de Cadel Evans.
Troisième basse commentage.
Pour l'instant, aucun commentaire. C'est ce que déclarait le Tchèque après l'épreuve du contre-la-montre de Grenoble samedi dernier, alors qu'il était devenu évident que les 95 derniers kilomètres de l'étape finale ne changeraient plus rien au classement général. Dans les Alpes, Krötziger s'est même posé la question de son abandon. À l'arrivée dimanche à Paris, il se décidait finalement à commenter les raisons de ce Tour de France raté.
Et il est évident que les trois chutes de la première semaine ne m'ont pas avantagé, surtout celle qui m'a touché au poignet, ce qui est bien entendu désagréable. Maintenant, tout est remis en question, mais je vais dès ce lundi faire une IRM afin de déterminer ce qu'il en est. Je pourrai me projeter dans le futur en fonction de ce qu'il en sortira.
Il faut dire que Roman Krötziger n'a en effet pas été épargné par les nombreuses chutes qui ont agrémenté les premières étapes de l'épreuve. Blessé, il perd de surcroît le leader de son équipe kazakh, Astana, Alexandre Vinokourov, lui-même victime d'une importante chute. La fatigue explique peut-être en partie les errements du coureur tchèque. Arrivé sixième au Tour d'Italie en mai dernier, il concédait lui-même que réaliser un Tour d'Italie et un Tour de France lors d'une même saison était un challenge autrement plus difficile que de lier le Tour de France avec le Tour d'Espagne, comme il avait pu le faire auparavant. Roman Krötziger a toutefois tenté certaines attaques, notamment lors de la première véritable étape de montagne, dans les Pyrénées. Dans l'ascension du col de la Ourquette, le Tchèque a ainsi tenté de rattraper le groupe échappé, sans succès. Dans les Alpes, il a également parfois essayé de conjurer le mauvais sort, mais sa condition physique lui a toujours fait défaut. Finalement soulagé de terminer le tour, Roman Krötziger pense pouvoir tirer quelques enseignements de cette déconvenue.
L'arrivée à Paris constitue toujours une très belle sensation car l'ambiance y est fantastique. Dans la dernière étape, je tenais vraiment à attaquer, même en vain, comme cela s'est produit dans les Alpes. Mais c'est le sport et tous les points négatifs peuvent bien sûr être par la suite convertis en expériences positives.
Roman Krötziger devra réfléchir à l'opportunité de réaliser un tour et un giro dans la même année.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Record de participants, record du parcours, tant chez les hommes que chez les femmes. Un vainqueur pour la première fois sous la limite de l'heure, un temps chaud et ensoleillé à un nombre public dans les rues du centre-ville. Pour sa 13e édition au samedi 2 avril, le semi-marathon de Prague a une nouvelle fois été un grand succès populaire et sportif. Voici la reprise d'une émission que Guillaume Narguet a consacrée à cet événement sportif en avril dernier.
Sport en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive. Record de participants, record du parcours tant chez les hommes que chez les femmes, un vainqueur pour la première fois sous la limite de l'heure, un temps chaud et ensoleillé et un nombre public dans les rues du centre-ville. Pour sa 13e édition, samedi 2 avril dernier, le semi-marathon de Prague a une nouvelle fois été un grand succès populaire et sportif. C'est désormais une évidence. Le semi-marathon, comme le marathon de Prague, font bel et bien partie des plus belles courses urbaines organisées en Europe et dans le monde. Les temps réalisés par les vainqueurs des dernières éditions démontrent que le semi-marathon et le marathon sont également devenus des courses d'élite. Cette année, avec un temps de 59 minutes et 30 secondes, le vainqueur kényan du semi-marathon, Philemon Lemo, a ainsi signé la troisième meilleure performance mondiale de la saison. L'année dernière, un autre coureur kényan, Eliud Kiptani, avait quant à lui bouclé les 42 km du marathon en 2h5 minutes et 39 secondes, améliorant ainsi de plus de 2 minutes le précédent record du parcours à Prague. Mais surtout, il avait réalisé la 17e meilleure performance mondiale de tous les temps. Aujourd'hui, les organisateurs des courses à pied dans la capitale tchèque sont donc récompensés de leur travail, entamé dans les années 1990. Du coup, récompense de ce travail, le semi-marathon de Prague se range dans la catégorie des épreuves recherchées par les tout meilleurs coureurs mondiaux, comme le confirme Jana Moberlai, chargée de la participation des athlètes d'élite.
Z těch úplně prvních ročníků samozřejmě jsme byli téměř rádi za každého elitního běžce ze zahraničí.
Les toutes premières années, nous étions contents de la présence de n'importe quel coureur étranger de bon niveau. Mais notamment ces deux dernières années, nous enregistrons un intérêt grandissant des athlètes d'élite pour nos courses. Nous avons désormais nettement plus de demandes et nous ne pouvons pas toutes les satisfaire. Nous sommes contraints de dire non à certains coureurs. Aujourd'hui, je dispose du luxe de pouvoir négocier avec leur manager plusieurs mois à l'avance et je peux choisir les athlètes dont les profils conviennent le mieux à nos courses à Prague.
Depuis l'année dernière, le semi-marathon de Prague présente en outre l'avantage de posséder un label d'or, une marque de qualité décernée par la Fédération internationale d'athlétisme. Cette année, pour la première fois, le marathon pourra également se targuer de ce label d'or, une distinction dont seuls les plus grands marathons au monde, type New York, Londres, Berlin ou Paris, peuvent se prévaloir. L'année dernière, quelques jours avant la tenue du semi-marathon, Anne Scheuner-Descloux, alors chargée du marketing et de la communication au sein de la société PIM, organisatrice des courses à Prague, nous avait expliqué les avantages et les contraintes de cette labellisation.
Pour nous, c'est un énorme honneur. C'est surtout une reconnaissance au niveau international, principalement au niveau des coureurs élites, c'est clair. Beaucoup d'élites veulent courir dans des courses qui ont reçu un label. Et le label d'or est la plus haute distinction. Donc ça, c'est une garantie de qualité. C'est une garantie aussi pour eux d'un prize money, d'une dotation de course plus haute. Pour nous, ça induit bien sûr beaucoup plus de travail, pas dans le service qu'on apporte directement, parce que ça, je pense qu'on essaierait de l'améliorer malgré tout. Mais c'est surtout tout ce qui est les contrôles. Alors, déjà, le nombre de coureurs élites qui doivent participer, qui ont un certain temps à respecter. On doit aussi apporter une certaine dotation. Et ce qui est très important pour nous, c'est la transmission télévisée, pas nécessairement en direct, mais en minimum 5 pays différents. Donc pour nous, c'est un énorme investissement de trouver cette retransmission dans 5 pays différents. On travaille avec beaucoup de journalistes étrangers pour nous aider.
La renommée, la bonne organisation et la réputation de sérieux concourent donc à attirer en République tchèque les meilleurs athlètes d'Afrique de l'Est, comme s'en réjouit Jana Moberly.
Il existe une quantité incroyable de coureurs kényans essentiellement, mais aussi éthiopiens. Comme toutes les sociétés dans le monde, les sociétés organisatrices de courses à pied sont confrontées à des problèmes financiers. Mais Prague a l'avantage de se ranger parmi les courses dont on sait que les responsables respectent leurs paroles et paient les primes promises. Les managers des athlètes en sont bien conscients et cela me permet de faire mes calculs à l'avance. Le prix des coureurs kényans et éthiopiens n'est en effet pas aussi élevé que celui des coureurs européens de même qualité qui sont beaucoup plus rares et donc plus difficiles à attirer. Les athlètes européens le savent et c'est ce qui leur permet, à la différence des Africains, de dicter leurs conditions financières aux organisateurs des courses.
Comme ces deux dernières années, les temps records réalisés par les vainqueurs kényans chez les hommes et chez les femmes lors de l'édition 2011 ont une nouvelle fois tordu le cou à l'idée selon laquelle les parcours du semi-marathon et du marathon de Prague ne seraient pas propices à la réalisation de chronos mondiaux de premier ordre. Les rues pavées et étroites ou encore les rails des voies de tramway désavantageraient les coureurs. Jana Moberly le sait bien et pourtant.
C'est vrai, mais les trois dernières éditions ont démontré que notre parcours n'est pas lent, loin de là, et qu'il est possible de réaliser à Prague d'excellents temps, des temps que les mêmes coureurs ne parviennent pas à atteindre sur d'autres semi-marathons ou marathons dans le monde qui ont la réputation d'être plus rapides. Le parcours de Prague est donc très rapide. Ce n'est certes pas le plus rapide, car sa spécificité est de passer dans certaines petites rues du centre historique de Prague. Le parcours propose de superbes vues de la ville. Bien entendu, cela est plus intéressant pour les amateurs que pour les coureurs d'élite, mais c'est ce qui fait le charme des courses à Prague et nous ne voulons pas que cela change.
Et le charme de Prague ne fonctionne pas uniquement sur les participants étrangers en provenance de plus de 80 pays. Les Tchèques sont également de plus en plus nombreux à s'aligner au départ du semi-marathon et du marathon. Cette année, la limite maximale des 9500 inscriptions fixée par les organisateurs a ainsi été atteinte près de 3 semaines avant la course, un cas de figure qui ne s'était jamais produit dans le passé où des dossards restaient toujours disponibles les derniers jours précédant le départ. Mais en 2010, déjà, avec 8500 coureurs, Le nombre de participants au semi-marathon avait progressé de plus de 30% par rapport à 2009. Un bond dans les chiffres qui, encore une fois, n'était pas le fruit du hasard, selon Anne Scheuner-Declou.
Je pense que c'est un travail à long terme, surtout en République tchèque. On a surtout une grande augmentation des coureurs tchèques. C'est un travail à long terme avec les enfants, les adolescents dans les écoles à convaincre les Tchèques de courir et de participer à des courses. Je pense que c'est surtout là un effort qui a été fait depuis 5 ans maintenant aussi avec le Junior Marathon de convaincre les gens à courir et à essayer à participer à des courses.
Et à n'en pas douter, le prochain marathon de Prague, qui se tiendra le 8 mai, devrait confirmer cette tendance en s'approchant lui aussi de la barre des 10 000 participants, limite sans doute maximale pour une ville comme la capitale tchèque.
C'était donc une reprise de notre programme sur le marathon de Prague. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.